Et puis le confinement est arrivé. Il s'annonçait son programme établi. Qui s'attendait à ça, franchement? Un temps pas particulièrement studieux. La romancière avait sorti son nouveau livre Bedbug 5 mois plus tôt. On n'écrit pas comme ça en appuyant sur un bouton. Faut recharger les accus et le vécu. Mais un post Instagram est venu changer la donne. Parce qu'elle aime raconter des histoires, Catherine Pancol a parlé d'Eugène, sa vieille pote surnommée Eugène, avec qui elle avait entrepris un voyage au Mexique quand elle avait 20 ans. Eugène sortira en roman graphique en novembre chez Albin Michel. Sacré confinement. Bonjour Catherine Pancol.
Bonjour Pascal.
Toujours se méfier des histoires, elles en font faire de ces choses, non?
Oui, je n'étais pas partie du tout pour travailler. J'étais partie avec un énorme panier de livres à lire. J'avais fait ma pile, j'avais tout préparé, je savais par lequel j'allais commencer et tout ça. J'étais très contente. Et puis, un soir, sur le fil Instagram, arrive un message d'une très 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 bonne amie, mais que je vois pas très souvent parce qu'elle a la bougeotte, qu'elle voyage tout le temps, et qui, sur le même ton, quand elle avait 20 ans, c'est surtout ça que j'ai adoré, se mettait en colère contre les gens, parce qu'elle est tout le temps en colère, Eugène, parce qu'elle trouvait que, le confinement c'était formidable, que les gens allaient peut-être regarder le monde, peut-être profiter de la beauté du monde, et arrêter d'être obsédée par leur petit nombril, et elle finissait par ouvrir les yeux, bande d'abrutis.
Et ça suffit,
ça suffit.
Voilà, bande c'est quelque chose qui dépasse. Ouais. Et là, c'est plus fort que vous. Il faut que vous tiriez, il faut que vous écriviez. C'est comme ça que ça se passe.
Mais oui, parce que tout d'un coup, ça m'a fait une explosion de bonheur. Je sais pas pourquoi j'étais contente d'avoir de ces nouvelles, parce que j'en ai pas souvent, même si on se voit de temps en temps, mais on se voit toujours rapidement. Elle est toujours en déplacement, elle est toujours en train de bouger. Et c'est quelqu'un que j'aime énormément, donc j'essaie de l'attraper comme ça. Et là, tout d'un coup, puis alors cette espèce de raccord avec ce qu'on avait été à 20 ans, et puis toutes les bêtises qu'on a faites, tous les voyages qu'on a fait ensemble, et puis cette espèce de mot de passe entre nous. Alors c'est vrai que on l'a utilisé beaucoup à un moment, puis moi après, mais là on devait partir il y a 4 ans, on devait partir en reportage toutes les deux en Amérique sur la trace de Patty Hearst. Pendant les élections, juste avant l'élection de Trump.
Patty Hearst, la fille du magnat qui avait été enlevée, c'est ça ?
Qui avait été enlevée par une bande armée
révolutionnaire. Syndrome de Stockholm.
Voilà. Mm-hmm. Et on voulait la retrouver et on voulait en même temps raconter cette Amérique, ce qu'a été devenue au moment des élections. Et je lui avais dit, on va ressortir ce prénom d'Eugène et on va faire Eugène et Catherine sur la route. Quoi.
Voilà. Donc ça commence par un post sur Instagram et puis ça enchaîne, post après post.
Ouais.
Pourquoi ? Parce qu'il y a l'engouement en face, parce que quoi ? Pourquoi vous retrouvez ?
Au départ, d'abord, on était confinés, donc je fonctionnais toute seule sur mon enthousiasme. Vous voyez, j'en ai parlé à Anne Boudard, qui est une dessinatrice que j'aime beaucoup, une jeune dessinatrice, avec laquelle j'avais travaillé déjà pour Bedbug, qui m'avait fait un petit livret en racontant l'histoire de Bedbug. Un jour, j'ai Anne au téléphone et je lui raconte. Elle m'envoie un petit dessin où on me voit sur le canapé avec le chien en train de bouquiner, parce que j'ai quand même eu le temps de commencer un livre avant d'écrire Eugène. Et Anne, elle m'envoie un dessin et je lui raconte. Et au fur et à mesure, je racontais à Anne, je racontais à Eugène, parce qu'on se ravivait nos souvenirs comme ça. Et puis petit à petit, c'est devenu ce qu'ils appellent maintenant un concept novel.
Un concept novel, ce qu'on pourrait traduire par... Qu'on traduit pas.
On traduit pas, enfin, on peut traduire pas beaucoup de choses, mais enfin c'est un roman avec des dessins.
Qui sortira donc en novembre chez Albin Michel. Instagram comme support, ça demande forcément à écrire différemment. D'abord, ce sont des petits éclats, c'est forcément des petits bouts d'histoire, ça change
ça a beaucoup changé, ça a changé non seulement la forme, ça faisait comme des petits modules de 3 minutes, vous voyez, et ça a changé le style aussi.
Pourquoi ça change le style ?
Ça change le style parce que quand vous écrivez un roman, vous rentrez vraiment beaucoup plus profondément dans les personnages, la psychologie des personnages. Là, il faut donner des indices, il faut donner des sons. C'est presque une bande son, une bande visuelle. Et il faut que ça aille vite. Ça tic tac tic 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 clic clic. C'est beaucoup plus sonore qu'un roman. Un roman, il y a un son. Un roman, c'est un rythme. Il y a un son. Il faut s'installer dans le son. Il faut c'est plus profond, tandis que sur Insta, et on est obligé de faire d'entrechoquer les mots comme des vers. Voyez,
ouais, mais ça, vous l'avez défini, ou alors c'est la plume qui, par une espèce de magie, s'adapte quasiment automatiquement.
C'est instinctif, c'est pas intellectuel du tout. C'est on n'a pas une place énorme. énorme, il faut aller vite, il faut raconter, et puis il y a toujours ce truc qu'il faut finir sur un hameçon qui tient les gens à laine pour qu'ils puissent revenir.
Oui, ça c'est le propre de la série. Ouais. C'est ça votre métier, ça fait un moment que ça dure, Catherine Pancol, raconter des histoires, qu'est-ce que ça demande, observation ou imagination?
Les deux. Les deux. J'observe énormément, j'essaie toujours de comprendre. Je suis passionnée par l'humain. Les hommes sont des insectes que je regarde avec beaucoup d'attention et beaucoup de concentration. Je peux perdre totalement le sens de l'humour quand je suis en état d'observation. Et puis après, à partir de ces éléments-là, c'est vrai que ça demande de l'imagination parce qu'on invente des histoires.
Oui, c'est ça, parce que quand on dit littéralement raconter des histoires, ça veut dire mentir, me raconte pas d'histoire.
Oui.
Donc c'est mentir ou c'est s'approcher de la vérité?
C'est les deux aussi.
Ah oui. Mentir sincèrement, ça irait comme oxymore?
C'est-à-dire qu'on part du réel, on part de choses tout à fait...
Allez-y, buvez un coup, pendant ce temps-là, je vais rappeler que... Ah bah oui, c'est ça la vie,
oui,
hein,
c'est
parfois.
Ça, le direct, c'est ça le direct
à la radio, c'est ça qui est bien. Ça y est,
oui, ça y est. Donc on part du réel, donc on parle de faits qui sont totalement vérifiables, véridiques. Et puis c'est surtout vrai pour les romans, ça. Et après, forcément, on crée des personnages. Et après, tout le monde dit ça, mais c'est vrai. Les personnages, ils deviennent indépendants et ils démarrent leur histoire. Mm-hmm. Alors Eugène, c'est très autobiographique quand même.
Oui, et du coup, vous revenez à cette veine-là qui était passée un petit peu.
Oui, qui était complètement passée.
Quoique,
on fait toujours aussi avec soi. On héberge tous les personnages d'un livre à l'intérieur de soi.
Est-ce que, au bout d'un moment, faut se méfier de son propre savoir-faire quand on écrit? Parce qu'il y a un moment où on sait davantage une chose, où on a une technique. Faut-il s'en méfier?
Mais je crois que c'est vrai pour tous les métiers, vous savez.
Ah, c'est vrai?
Ouais.
Ah, mince.
Oui, oui. C'est parce que tout le monde a des tics, tout le monde a des manières de faire. Ça ressemble un peu au style, vous savez. On reconnaissait une robe Chanel, on reconnaît une musique Billie Holiday, on la reconnaît tout de suite, on reconnaît un immeuble d'un architecte et un style. Alors après, il faut agrandir à chaque fois le carcan du style, et on arrive à le transformer. Mais je pense que c'est vrai pour tout le monde.
Catherine Pancol dans Culture Média ce matin, elle revient dans 2 minutes et du coup moi aussi, à tout de suite.
Clark.
La réalisatrice Catherine Pancol, ah bah voilà,
L'aviatrice.
La cuisinière, hein, pourquoi pas. Ah bah je suis partie bille en tête. Hein. Bah pourquoi pas, bah vous pourrez très bien être réalisatrice.
J'aimerais être aviatrice.
Peut-être que j'ai une vision, là vous le savez pas encore. Il s'agit bien sûr de la romancière Catherine Pancol qui est dans Culture Média ce matin. Vous pouvez bien rire, mais vous faites partie de ceux et de celles qui vendent énormément de livres. Est-ce que ça vous étonne?
C'est pour ça que je ris, d'ailleurs.
Ouais. Est-ce que ça vous étonne encore à chaque fois quand vos romans apparaissent en haut des classements? C'était encore le cas pour votre dernière en date, Bed Bug.
Mais j'ai toujours étonné, moi. Je suis pas du tout une fille blasée, vous savez.
Comment faites-vous pour pas être blasée?
Mais parce que je pense que j'ai une vie normale, hein, avec des gens normaux, et que je suis toujours étonnée. Je suis vraiment étonnée, hein, c'est pas...
Et puis, ça m'étonnerait quand même que vous ayez une vie normale.
Oh, si j'ai une vie extrêmement normale.
Ah ouais?
Ah ouais.
C'est quoi une vie normale?
Vie normale, c'est-à-dire que je sors, par exemple, ce matin, je me suis réveillée, j'ai sorti mon chien pendant une demi-heure, j'ai ramassé sa crotte, j'ai donné à manger, j'ai donné à boire, je lui ai expliqué que je partais. Et puis voilà, j'ai une voiture, je me gare, je mets mon ticket, enfin, j'ai pas de, vous voyez, je vais faire les courses, je sais où je vais acheter la lessive, bio évidemment, le pain avec des céréales dedans, enfin j'ai une vie normale, j'ai pas une vie...
Parce que ça isole le succès.
Ça isole, mais moi j'ai fait très attention à ça tout de suite. Tout de suite.
Mais comment alors?
Après le succès de mon premier livre, je suis partie aux États-Unis, à New York.
Le premier c'était Moi d'abord.
Moi d'abord, et je me suis dit que si je restais à Paris, j'allais devenir un petit phénomène parisien, et j'avais aucune envie.
Parce que ça vous l'avez senti tout de suite?
Ah, tout de suite.
Mais vous auriez pu tomber dans le piège du succès, on a le droit au début, pourquoi pas?
Ah, mais peut-être, mais j'avais pas envie, quoi. Je veux dire, on peut faire ce qu'on veut, mais j'avais pas envie du tout. Je me suis très vite rendu compte de ça. Le mois d'abord, ça a été une explosion. C'était 300 000 exemplaires, alors que j'étais inconnue, j'étais une petite journaliste. J'avais fait ça pour rire, vraiment, et pour faire plaisir à Robert Laffont, qui m'avait demandé d'écrire un roman. Mais moi, à l'époque, j'étais sur un reportage. Je devais partir en ce qui était à l'époque URSS, avec Raymond Depardon, pour faire un livre sur les femmes soviétiques. Vous voyez, j'étais loin de moi d'abord. Mmh. Pendant qu'il y travaillait pour avoir les visas, j'ai écrit Moi d'abord. Et puis ça a été un succès. Et puis d'un coup, on me voulait comme réalisatrice, comme actrice, comme chanteuse, comme vous l'achetez moi d'abord pour faire un parfum. Enfin, il y a eu un truc.
Toutes les portes se sont ouvertes.
Voilà. Et c'était trop. J'ai eu le vertige et surtout j'ai eu cette intuition très forte que je voulais pas devenir un objet qu'on allait commercialiser. Et donc je suis partie à New York et je pense que ça a été ma première bonne réaction. Mmh. Et après j'ai fait attention tout le temps.
Le succès a toujours été là. Est-ce qu'il est forcément source de malentendus?
Oui, ça c'est évident.
Pourquoi?
C'est évident parce que, mais c'est surtout évident en France, je pense que succès en France veut dire facile, consommable, pas très respectable. Il y a une très grande méfiance en France sur quand ça marche.
Et ça c'est vrai dans tous les domaines ou particulièrement en littérature?
Ben, c'est vrai surtout en littérature. Surtout en littérature. En littérature, il faut être très, très sérieux, très intellectuel. Moi, j'ai plutôt la manière d'écrire anglo-saxonne. Je pars des faits, je construis les personnages, je pars de détails. Regardez Simenon, il n'a pas été considéré pendant très, très, très longtemps. Il faut mourir. Je pense que peut-être après ma mort, ça ira mieux.
Ouais, mais ça vous peine tout ça ou...
Ça m'a fait beaucoup de peine au début. Au début, ça m'a fait de la peine. Ouais. Et puis, surtout, après le succès de Moi d'abord, je m'en suis vraiment pris plein la figure. Mais après, on comprend, et puis j'ai eu toute cette période où j'ai quand même beaucoup vécu à New York, donc j'étais loin de tout ça. Et quand je suis rentrée des États-Unis, ben je m'étais habituée, quoi. Et maintenant, j'ai un peu un statut à part. Les gens ne savent pas très bien comment me prendre, et ça me va très bien.
Et comment faut-il vous prendre?
Comme vous me prenez.
Est-ce que, Catherine Pancol, votre style plutôt enjoué ne vous joue pas des tours? Je prends l'exemple de Bedbug. Certes, c'est l'histoire de Rose, hein, qui est une biologiste qui travaille dans un laboratoire, qui fait des recherches, mais qui cherche aussi l'amour, comme souvent. Or, on découvre dans le livre, à la fin du livre, que de génération en génération, les femmes de sa famille ont été victimes de violences sexuelles. On ne vous a pas beaucoup interrogé là-dessus à la sortie du roman. Pourquoi?
Et pourtant, je l'ai dit dans ce studio.
Ah bah, je vais le rappeler, voilà, ouais. C'était chez Philippe Vandel, dans Culture Média, et vous avez dit, j'ai été violée. Et il n'y a pas eu beaucoup de réactions.
Il n'y a aucune réaction.
Pourquoi?
Ah ben, c'est pour ça aussi que beaucoup de femmes se taisent, vous savez, c'est très étrange. Moi, j'ai été violée à l'âge de 12 ans, j'ai été violée après. Alors, il y avait aussi l'époque qui était qu'on n'en parlait pas, c'est vrai qu'on n'en parlait pas, et si on en parlait, on ne vous croyait pas.
Ça, c'était à l'époque.
Oui, mais je me demande si c'est pas encore un peu... On écoute certaines personnes et pas d'autres. Vous voyez, je suis sûre qu'il y a encore beaucoup de cas où on n'entend pas. Parce que c'est très gênant d'avoir quelqu'un qui vous dit ça. C'est très, très gênant. Donc, donc finalement, vous faites votre propre réconciliation avec vous-même. C'est-à-dire que vous dites, je vais vivre malgré ça. Je vais grandir malgré ça. Je vais... Et vous développez, c'est ce que vous disiez, une sorte d'humour, on va vivre quand même, quoi. Vous voyez, c'est ça, il y a l'humour, et c'est là où l'humour intervient. Je n'en suis pas morte, ça m'a construite, quelque part, ça m'a donné une force, finalement, énorme. Et quelquefois, je me dis, ben, vous voyez, je m'en suis sortie. Alors, et l'humour, il intervient là. Je pense que si je n'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu dans ma vie, je serais beaucoup moins drôle, bizarrement, parce que je relativise beaucoup, quoi.
Et puis c'est une protection.
Et puis c'est une protection et c'est une manière de parler qu'à des gens à qui je peux faire confiance. C'est un pas de côté.
On va continuer à parler de ça ou d'autre chose, on va bien voir. C'est la pub, là, je m'adresse à Valentine. C'est la pub? Ouais, je croyais qu'il y avait un disque, mais non. Allez, la pub, puisqu'il le faut. À tout de suite. Catherine Pancol sortira en novembre chez Albin Michel un roman graphique, Eugène, une virée assez rocambolesque au Mexique avec des dessins signés Anne Boudard. J'oublie pas que vous avez commencé comme journaliste. Vous l'êtes toujours, c'est pour la vie, ces choses-là?
Je crois que je suis dans l'esprit et dans l'âme. Hein.
Ouais.
Mais j'ai commencé comme prof de français latin.
Ah oui, avant ça. Ouais.
Mais oui, je pense que c'est une manière d'observer aussi.
Il y a des liens entre toutes ces activités, finalement, vous diriez?
Il y avait un lien très simple, fait que je gagne ma vie. Hein.
Oui, ça c'est vrai, ça c'est sûr.
Ouais. J'avais pas de... Je veux dire, mes parents étaient par Mons et par Vaux, j'avais pas d'argent, j'étais livrée à moi-même, fait que je gagne ma vie. J'ai fait plein de petits boulots, mais ça m'a toujours servi. Toujours servi. Les petits boulots qu'on fait, c'est formidable.
Comme quoi?
À un moment, je conduisais un van dans un entrepôt pour placer des barils de lessive. Et je m'en suis servie pour Les yeux jaunes des crocodiles, le métier de Marcel, qui a un entrepôt qui s'appelle Casamia. Et je sais comment fonctionne un entrepôt, je sais comment arrivent les marchandises. Alors je faisais 6 mois, puis après j'allais vendre la lessive ailleurs, et puis voilà, puis je faisais mes études en même temps. Mais tout ça, ça m'a toujours servi.
Mmh. Dans la première partie de cette émission, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter ça, on parlait d'une enquête qui est parue sur le site Vice, de tous les journalistes qui quittent ce métier parce que trop de précarité... trop de non-sens, d'absence de sens. Vous y croyez encore, vous, à ce métier de journaliste ? Non, du tout ?
Non, alors si, j'y crois quand je lis Society, l'enquête sur Dupont de Ligonnès. Alors là, j'ai formé... Ça, c'est vraiment le journalisme que j'aime. Ou le Truman Capote avec le... Vous voyez, le récit qui est à la fois un roman et un récit et un fait divers. J'y crois, Norman Mailer, Le Chant du Bourreau, j'y crois. Là, j'y crois vraiment.
Donc, dans les formats longs et par écrit,
voilà.
Si on prend ces exemples.
Society, c'est très, très long. Du reste, regardez, on ne le trouve plus.
Quoi. Ah bah oui, non, c'est
vraiment
le coup de l'été.
Exactement, le tube de l'été. Alors là, j'y crois, mais ça demande... C'est ce que je raconte un moment dans Eugène. Alors, là aussi, avec une manière très drôle, où je dis, j'ai arrêté ce métier quand on allait interviewer quelqu'un, on avait un quart d'heure, 20 minutes, entre deux portes. On peut rien piquer de l'âme de la personne, de ses mensonges. Et avant qu'on allait interviewer n'importe qui, un réalisateur, un écrivain, un chanteur, on passait la journée avec lui. Donc même s'il essayait de vous mentir au début, son propos tenait pour peu qu'il soit intelligent. Moi, il y a des interviews que j'ai des gens que j'ai refusé, sur lesquels j'ai refusé d'écrire parce qu'à la fin de la journée, tout d'un coup, le vrai ressortait. Et il était odieux, le vrai. Et je rentrais au journal, je dis, je ne peux pas écrire sur ce mec.
On va se fâcher.
C'est pas tellement ça, c'est que j'aurais dû... Vous voyez, c'était son problème qui soit horrible. J'avais pas envie de salir quelqu'un publiquement. Mais on pouvait faire ça à l'époque. On pouvait dire, je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça. Et on passait du temps, donc on chopait toujours des trucs. Et donc, c'est ce qu'a fait Society avec ce fait divers. Parce que c'était... à l'époque, on avait le temps, on avait l'argent. Et on était seul face à quelqu'un quand on l'interviewait, ou on vous lâchait dans une situation. Moi, j'ai fait beaucoup de procès, j'ai fait aussi... moi, je travaillais pour Paris Match, donc on allait sur les lieux quand il y avait eu des attentats, quand il y avait des mini-révolutions, et ils envoyaient... Match était bien pour ça, ils envoyaient tout le monde, ils envoyaient des filles, des garçons, et on partait avec un photographe, donc, et on chopait des trucs. Et on avait le temps, on pouvait rester 10 jours en Inde, on pouvait... Maintenant, c'est pas possible, vous partez, vous devez déjà revenir.
Si vous aviez du temps, si vous aviez un peu de moyens, vous verriez à nouveau partir sur une grande enquête pour un journal, pour un magazine, ça pourrait vous motiver ?
Oui, vraiment, vraiment.
Et sur quel terrain plutôt ? Le fait divers ?
J'adore les faits divers. Ouais, c'est formidable, parce que c'est comme rentrer dans un roman, sauf que c'est pour de vrai. C'est pour de vrai, vous avez des vrais personnages. Donc, pourquoi il a agi comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Toujours trouver la fêlure, la faille qui fait que la personne, tout d'un coup, va devenir quelqu'un d'autre, va devenir violent, va devenir bon. C'est de la fiction en réel.
Mm-hmm. Vous la connaissez, vous l'imaginez, votre suite littéraire à vous, la prochaine histoire que vous allez triturer
Non.
Il y a quelques indices qui commencent à vous arriver, ou c'est beaucoup trop tôt ?
C'est trop tôt parce que Eugène, on est en train de finaliser là, c'est-à-dire qu'on est en train de travailler sur la maquette, je suis en plein dedans. Et après, il faut Stevenson, il disait qu'après un livre, le réservoir était à vide et qu'il fallait attendre que le réservoir se remplisse. Et
donc, se remplisse de quoi ? De vie ?
De vie, de détails, parce qu'on peut démarrer sur un détail, un livre, on peut démarrer sur un son, on peut démarrer sur une réplique de film, on peut démarrer sur une scène qu'on voit dans la rue. Donc c'est ça, et c'est ce qui met le feu au réservoir, en fait.
Il peut y avoir des fausses pistes ?
Il y a des fausses pistes.
C'est-à-dire que vous pensez la voir, ce début,
voilà, et vous vous épuisez en route.
Mmh. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ?
Ben, on passe met à la poubelle.
Ouais. Mmh. Mmh. Mais c'est souvent ou...
Non, ça m'est arrivé une fois, mais je m'étais déjà bien engagée. J'avais écrit 50 pages. J'étais pas sûre de moi. Je suis allée voir mon éditeur qui était Jean-Marc Roberts. Je lui ai dit, écoute, je sais pas, dis-moi franchement. Et Jean-Marc, pour ça, a été génial. Il m'a dit, non, tu y es pas. Tu y es pas. Et on a fait poubelle. Et je l'avais fait pour mon premier roman, moi d'abord. J'étais pas sûre de moi. J'étais pareil. parce qu'on ne sait pas. Il faut, c'est vraiment, c'est ténu. Vous savez, vous partez sur une phrase, pas quelquefois. Vous partez et cette phrase va vous donner le là de d'un livre qui peut faire 600 pages, 300 pages. Donc il faut tenir la note tout le temps.
Vous en avez terminé, croyez-vous, des trilogies? Est-ce que vous allez ou ça on choisit pas?
Mais moi, je crois que je choisis pas du tout. Je choisis pas. Regardez Eugène, j'étais partie vraiment avec mon panier de livres bien rangé. Je me disais bon, je vais faire ça. Et puis voilà, quelque chose d'étrange. Il faut saisir le truc quand il passe. C'est ça. C'est comme dans la vie, les rencontres. Faut attraper le truc quand il passe.
La pire des choses, c'est de laisser passer les trains.
Exactement.
Catherine Pancol. Et dans Culture Média, ce matin, on va arriver aux indispensables, ces recommandations, cette façon de faire passer. Et j'espère que vous aussi, vous allez faire tourner. À tout de suite.